France Culture, il est 12h31. Tout de suite au journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après que l'affaire Benalla a ouvert hier un conflit d'une intensité rare entre le Sénat d'un côté et l'Élysée de l'autre, la question juridique se pose à présent de savoir quel sort sera réservé aux trois collaborateurs d'Emmanuel Macron, soupçonnés d'avoir maquillé la vérité lors de leurs auditions par la commission d'enquête.
À l'issue d'une réunion marathon de 7 heures à Bruxelles hier, lors de la première journée du Conseil européen, les 27 ont fini par trancher.
Ils ont octroyé à la première ministre britannique Theresa May 2 semaines de grâce supplémentaires sur qui ne préjuge en rien toutefois d'une sortie en douceur du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, des centaines d'Algériens sont à nouveau depuis ce matin dans les rues de la capitale pour réclamer la démission immédiate du président Abdelaziz Bouteflika.
Après que le président américain Donald Trump s'est dit favorable hier à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le plateau occupé du Golan, le régime syrien a juré ce matin de récupérer les hauteurs du plateau par tous les moyens possibles. Quant au président turc, il juge que la déclaration de Donald Trump met la région au bord d'une nouvelle crise. Enfin, l'invité Europe de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Jean Arthuis, eurodéputé ADLE et président de la commission du budget au Parlement. Après que le Sénat, à majorité de droite, a choisi de saisir la justice hier du cas d'Alexandre Benalla, mais aussi de ceux de trois hauts responsables de la présidence, si l'Élysée n'a toujours pas réagi à ce coup de tonnerre, en revanche, la décision de la Chambre haute fait bondir depuis hier la majorité ferrarissime. Le Premier ministre Édouard Philippe, tout d'abord, a boudé la traditionnelle séance des questions au gouvernement. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a fustigé un tribunal politique. Enfin, le président LREM de l'Assemblée, Richard Ferrand, a lui décidé de boycotter aujourd'hui une conférence commune à Lille prévue avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Alors, comme toujours, il convient ici de distinguer la forme et le fond que l'exécutif crie aujourd'hui au procès politique, invoquant des manœuvres et autres diversions politiciennes ne surprendra personne. En revanche, doit-on s'étonner que le Sénat assure son rôle de contre-pouvoir ainsi que l'y autorise et même l'y invite la Constitution? De la même manière, faut-il s'étonner que de par sa composition différente de celle de l'Assemblée, la Chambre haute majoritairement acquise à l'opposition vienne garantir le bon fonctionnement de la démocratie? En clair, ne devrait-on pas davantage se réjouir de l'existence d'un juste équilibre des pouvoirs, qui plus est dans un contexte de défiance de l'opinion publique vis-à-vis des politiques? Rosalie Lafarge a sollicité l'analyse d'Olivier Roucan, politologue, constitutionnaliste et auteur notamment du livre « En finir avec le président » publié aux éditions François Bourin.
Au sens d'un régime parlementaire et d'une démocratie respectueuse de l'état de droit, il est clair que le Parlement a pour mission, et donc le Sénat a pour mission de contrôler l'action de l'exécutif. Ensuite, on peut toujours ergoter, est-ce que le Parlement doit se limiter à un contrôle du gouvernement et à ce titre ne pas contrôler ce que fait l'Élysée, ou est-ce que pleinement le Parlement doit contrôler l'exécutif au sens large et donc également la présidence et son cabinet? Dans une démocratie parlementaire contemporaine, on est plutôt sur le second axe. Donc l'exécutif au sens large, la présidence sont concernés par le contrôle politique du Parlement. Donc là, pour une fois, le Sénat joue son rôle, donc c'est plutôt souhaitable si, encore une fois, on souhaite que le présidentialisme soit tempéré. Personne n'a le monopole de l'interprétation des institutions, mais le gouvernement est là dans une approche très orthodoxe et très présidentialiste, dont on voit que par ailleurs, elle passe de moins en moins dans l'opinion, parce qu'on voit bien que la logique d'un président jupitérien, de ce présidentialisme exacerbé, est de moins en moins reconnue par l'opinion publique comme étant légitime.
Voilà, Olivier Roucan, politologue et constitutionnaliste, il le répondait à Rosalie Lafarge. Alors parce que la France, comme tous les régimes démocratiques d'ailleurs, est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, mais aussi judiciaires, la question se pose donc à présent de savoir ce qui attend les trois hauts responsables de l'Élysée, suspectés d'omission, d'incohérence, de contradiction lors de leur déclaration sous serment devant la commission d'enquête parlementaire conduite sur l'affaire Benalla. Thomas Larabi, bonjour.
Bonjour Thomas.
Depuis hier et manière sans doute de recadrer ce que certains pourraient être tentés de résumer à une simple guerre institutionnel entre anciens et modernes. Les sénateurs le rappellent sur tous les tons. La balle est désormais dans le camp de la justice.
Oui, d'abord car ces signalements par le Sénat sont très importants. La justice n'aurait pas pu se saisir toute seule dans cette affaire. Maintenant, il y a deux solutions. Première solution, on ouvre une enquête préliminaire. Mais cela veut dire confier l'affaire à la police judiciaire, chapeautée par le ministère de l'Intérieur. Et en cette période de guerre ouverte entre l'exécutif et le Sénat, la solution ne semble pas idéale. La seconde solution, c'est confier le dossier à un ou plusieurs juges d'instruction, et c'est sûrement le meilleur choix pour garantir l'indépendance de l'enquête. Pour ce qui est des peines encourues, les trois responsables de l'Élysée risquent au maximum 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, ça c'est ce que dit la loi. Et pour ce qui est de la jurisprudence, il y a un seul précédent en France de parjure devant une commission d'enquête. Ce précédent, c'est l'affaire du pneumologue Michel Aubier, connu pour ses positions, disons, bien bienveillante vis-à-vis du diesel. En 2015, il déclare sous serment à la commission d'enquête du Sénat qu'il n'a aucun lien avec le monde des carburants. Et en réalité, il travaillait pour Total. Alors après un an d'enquête, Michel Aubier est condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Une peine allégée en appel à 20 000 euros d'amende.
Alors il y a notamment un point de droit, Thomas, qui rend en plus cette affaire particulièrement difficile.
Oui, en droit français, le mensonge n'est pas en soi un délit. Un suspect, par exemple, ne peut pas être forcé à témoigner contre lui-même, à s'auto-incriminer. C'est de là que découle d'ailleurs, par exemple, le droit au silence. Alors il existe bien sûr des exceptions, notamment sous serment, mais dans le cas d'une commission d'enquête au Sénat, la loi n'est pas claire. Cette incertitude et la guerre politique ambiante pourraient largement ralentir la procédure.
Merci Thomas Larabie. Le Conseil constitutionnel a validé hier l'essentiel de la vaste réforme de la justice portée par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. En revanche, même si les grands axes de la loi ne sont donc pas remis en cause, les sages ont tout de même retoqué plusieurs dispositions importantes, notamment celle du code de procédure pénale renforçant les pouvoirs du parquet au détriment des juges d'instruction, disposition jugée attentatoire aux libertés fondamentales. À la veille de l'acte 19 des Gilets jaunes et au lendemain des déclarations autoritaires du ministre de l'Intérieur promettant l'impunité zéro aux casseurs et appelant le nouveau préfet de police de Paris à, je cite, ne pas avoir la main qui tremble. Ce matin, c'était au tour du gouverneur militaire de Paris de prévenir que les soldats qui seront mobilisés demain pourront aller jusqu'à l'ouverture du feu si leur vie est menacée ou celle des personnes qu'ils défendent. Le général Bruno Leray qui précise toutefois que les ordres seront suffisamment clairs pour qu'il n'ait pas d'inquiétude à avoir. L'imbroglio autour du Brexit se poursuit avec depuis hier un nouveau scénario à tiroir, ou plus exactement un dispositif à double détente plaçant directement les parlementaires britanniques le doigt sur la gâchette. Première option, la Chambre des communes vote la semaine prochaine l'accord conclu avec l'UE et offre ainsi au Royaume-Uni un report de la date du Brexit au 22 mai. Deuxième option, Theresa May échoue pour la troisième fois à convaincre une majorité de députés d'accepter enfin ce document, auquel cas Londres n'aura plus que jusqu'au 12 avril pour annoncer ses intentions. Et le cas échéant, les Britanniques devront dire à cette date s'ils souhaitent quitter l'UE sans accord ou s'ils s'engagent au contraire à la tenue des élections européennes, laquelle les ferait redevenir un État membre comme les autres, avec peut-être la perspective future d'un abandon du Brexit. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Alors, même si la fin du tunnel approche, difficile tout de même encore d'entrevoir d'où pourrait bien venir la lumière. Et surtout, il semble que ce n'est pas Theresa May qui aura la main sur l'interrupteur, Antoine.
C'est sûr. Aux yeux des Britanniques, c'est peut-être la description du dîner d'hier soir à Bruxelles qui résume le mieux la situation. Pour les chefs d'État des 27, lentilles, langoustines, canards rôtis et chocolat. Et pour la première ministre britannique, pizza à emporter. Theresa May, marginalisée, humiliée, ridiculisée, jusque dans les pages du Financial Times. David Cameron était jusqu'ici le pire Premier ministre qu'ait connu le pays. Elle est en train de lui voler la vedette. Les vrais leaders ne se comportent pas de cette façon. Le président du comité 1922, l'organe de régulation du Parti conservateur, est bombardé de SMS, explique le Télégraphe, des messages envoyés par les députés de la majorité qui demandent à la Première ministre de démissionner. Et l'un des responsables du Trésor lance même l'idée d'un gouvernement d'union nationale comme pendant les guerres napoléoniennes et en 1931 avec Churchill. Idée reprise par plusieurs donateurs du parti qui menacent de suspendre leur versement.
Alors, si on reprend les choses dans l'ordre, Antoine, la prochaine échéance, c'est donc le vote la semaine prochaine à la Chambre des communes sur l'accord négocié avec Bruxelles. Ce vote, tout d'abord, peut-il déjà avoir lieu? Et si oui, a-t-il une chance d'aboutir?
Ouais, mais je vais vous donner la réponse que Theresa May elle-même a faite aux dirigeants européens quand ils lui ont posé la question hier soir. Elle a donné le chiffre de 10% de probabilité. Donald Tusk, le président du Conseil, a fait la moue et il a rectifié peut-être plutôt autour de 5%. En fait, c'est l'attitude jusqu'au boutiste de la première ministre qui joue contre elle et qui risque d'empêcher ce troisième vote. Ben Bradley, Steve Doble, Lisa Nandy à gauche, tous ces députés qui se disaient prêts ces derniers jours à soutenir l'accord négocié entre Londres et Bruxelles freinent désormais des quatre fers parce qu'ils s'estiment pris en otage. Et dans le même temps, eh bien, la pétition qui réclame l'abrogation de l'article 50 continue de recueillir des signatures, déjà plus de 2 millions en moins de 48 heures. Cette pétition, elle a été massivement signée à Londres, dans le sud de l'Angleterre et dans les grandes villes.
Merci Antoine Gignoux en direct de Londres. Alors à l'approche des élections européennes dont beaucoup redoutent qu'elles ne se concluent par une forte poussée des partis populistes, chaque scrutin national de nature a bouleversé le paysage politique et désormais suivi de près, c'est le cas en particulier aux Pays-Bas où un jeune parti anti-immigration et eurosceptique vient de faire son entrée en force au Sénat. Le parti Forum pour la démocratie constitue désormais la plus importante formation à la Chambre haute du Parlement. Un mois après le début de la contestation, les Algériens entendent bien rester mobilisés avec de nouvelles manifestations. Aujourd'hui, l'objectif reste bien entendu le même, réclamer le départ du président Abdelaziz Bouteflika, comme en témoignent d'ailleurs les mots dièse publiés encore toute cette semaine sur les réseaux sociaux. Partez tous, nous sommes unis, ils sont finis. Thibaut Cavaillès, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors si les mots d'ordre restent identiques, faut-il en déduire que rien n'a changé depuis un mois?
Bien au contraire, les lignes bougent. S'il y a un mois, c'est tout un peuple qui manifestait contre tout un système. Aujourd'hui, c'est tout un peuple contre quelques soutiens du président Bouteflika, plus que jamais isolé. Que s'est-il passé? Il y a eu d'abord cette annonce au peuple algérien le 3 mars dernier, jour de clôture des dépôts de candidature à la présidentielle. Bouteflika qui assure que s'il est élu, il n'ira pas jusqu'à l'issue de son mandat et organisera une élection anticipée à la il ne participera pas sans donner de date. Les manifestations, malgré tout, ne faiblissent pas. Le palais présidentiel commence alors à craqueler et ceux qui entourent le pouvoir à se dire que la rue a peut-être raison. Les Moudjahidines d'abord, ces anciens combattants pour l'indépendance de l'Algérie, très respectés, qui le 8 mars dernier dénonçaient les institutions loin d'être à la hauteur, je cite, des aspirations légitimes de notre peuple. Trois jours plus tard, nouvelle adresse du président aux Algériens, l'élection du 18 avril est reportée, des réformes promises. Mais la rue y voit une façon pour Bouteflika de prolonger son quatrième mandat. Le mouvement ne dégonfle pas. Crise, changement de Premier ministre, le nouveau est chargé de former un gouvernement de technocrates. Il a du mal, c'est du coup l'hémorragie. L'UGTA, principal syndicat tout puissant, mais aussi le forum des chefs d'entreprise, commencent eux aussi à se désolidariser du pouvoir. Le FLN, le principal parti historiquement aux côtés du président, apporte son soutien au mouvement, tout comme le porte-parole du RND, parti important lui aussi. Un rétro-pédalage de ces cadres n'y changera rien. Les Algériens commencent à voir à travers les murs tellement le palais se fissure. Voilà ce qu'ils ont obtenu depuis un mois, que ce président en place depuis 20 ans soit lâché de toutes parts et que les pays partenaires du pouvoir algérien se sentent un peu coincés entre l'ancien monde et ce mouvement populaire d'une maturité saluée par tous les observateurs.
Merci Thibaut Cavaillès. Et puis ultime changement, si jusqu'à présent le soleil avait accueilli chaque vendredi de mobilisation, aujourd'hui c'est sous la pluie que les Algériens manifestent. Après avoir déjà offert à Benjamin Netanyahou la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu hier, Donald Trump lui a cette fois-ci offert sur un plateau la reconnaissance de l'annexion du Golan, une aubaine pour le Premier ministre israélien à l'approche des élections législatives. Alors cette annonce du président américain marque une rupture totale, non seulement avec la communauté internationale, laquelle n'a jamais reconnu la souveraineté d'Israël sur ce territoire conquis pendant la guerre des six jours, puis annexé au début des années 80, mais elle rompt par ailleurs avec la position des États-Unis depuis des décennies. Enfin, et comme à son habitude, c'est donc par un simple tweet que Donald Trump aura annoncé sa décision, pourtant extrêmement importante sur le plan diplomatique. C'est une correspondance à Washington signée Grégory Phillips.
Après 52 années, écrit Donald Trump sur Twitter, il est temps pour les États-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d'Israël sur ce plateau du Golan. Et c'est d'ailleurs sur le même réseau social que Benjamin Netanyahou remercie le président américain pour cette décision qu'il qualifie de courageuse. Avec cette annonce, Trump chamboule complètement la donne et va à l'encontre l'encontre du droit international, la résolution 242 des Nations Unies, adoptée en novembre 1967, après la guerre des Six Jours, condamne l'occupation, puis quelques années plus tard, l'annexion de ce plateau montagneux de 1 200 km² situé aux confins d'Israël, de la Syrie et du Liban. Après le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, Trump fait donc un nouveau cadeau à son ami Netanyahou, qui est attendu lundi à Washington, et ce, à moins de 3 semaines de législatives cruciales dans son pays. Donald Trump jure que cette annonce n'a rien à voir avec le calendrier électoral israélien.
Actant un peu plus encore l'échec du deuxième sommet entre le dictateur nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, Pyongyang a retiré ce matin son personnel du bureau de liaison intercoréen, lequel avait pourtant ouvert dans le cadre d'un spectaculaire rapprochement sur la péninsule, visiblement mis à mal aujourd'hui par le blocage des discussions sur la dénucléarisation. Au Brésil, la tentaculaire enquête Lavage Express, laquelle a mis au jour le plus grand scandale de corruption de l'histoire du pays, a fait une nouvelle victime. Hier, l'ex-président Michel Temer a été arrêté et placé en détention préventive. Il aurait été le récipiendaire d'un pot de vin versé en 2014 par des entreprises du secteur de l'énergie. Alors jusqu'à présent, Michel Temer était parvenu à 2 reprises à empêcher l'ouverture d'un procès au Congrès. Pour cela, il s'était notamment octroyé le soutien d'une solide base parlementaire en échange de faveurs et de postes clés. Mais depuis qu'il n'était plus protégé donc par son mandat, l'étau s'était inexorablement resserré autour de lui. Ce qui d'ailleurs n'est pas forcément pour déplaire au nouveau président Jair Bolsonaro. Je vous propose d'écouter l'analyse d'Hervé Terry, directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l'université de Sao Paulo. Il répond à Nabila Hamel.
Tant qu'il était au pouvoir, la justice normale ne pouvait pas le rattraper. Et il aurait fallu que le Congrès le destitue comme il a destitué Dilma Rousseff. Mais il a réussi, pendant ses 2 ans de mandat, à repousser 2 fois les mises en accusation parce qu'en fait, il connaît très très bien le Congrès. Il en a été président et il s'est débrouillé pour éviter, en accord avec ses anciens collègues, d'être renversé. Ça va renforcer l'idée que toute la classe politicienne traditionnelle est corrompue. Enfin, c'était déjà clair et c'est de plus en plus établi avec des preuves. Et il y a bien longtemps qu'on disait qu'il contrôlait largement le port de Santos, qui est le principal port du pays, et qui touchait des pourcentages. Et en fait, il est tombé sur une autre affaire où il a apparemment détourné de l'argent sur la construction de la seule centrale nucléaire brésilienne, où il y a évidemment beaucoup d'argent. Un de ses assesseurs a été pris avec une valise de billets. Enfin, ça manquait pas de matière pour le mettre en accusation. Alors, il aurait pu échapper. Il avait été question qu'il soit nommé ambassadeur à Rome, ce qui l'aurait un peu protégé. Et apparemment, Bolsonaro l'a pas souhaité. Et au contraire, se sert un peu de lui maintenant pour détourner l'attention.
Comme le président qui serait le président de la véritable lutte anticorruption ?
C'est bien possible, de lui et surtout de son ministre de la Justice, qui est Sergio Moro, qui était le principal juge de l'affaire Lavajato, qui a mis au jour l'essentiel de la corruption et qui l'a nommé comme ministre de la Justice. Donc les deux, probablement, vont bénéficier de ça comme preuve que la lutte contre la corruption continue. Ce qui tombe bien, puisqu'il y a déjà eu un premier scandale, non pas de Bolsonaro lui-même, mais de son fils. Et donc, il commençait à avoir sa légende de chevalier blanc commençait à être un peu ternie. Donc là, ça tombe bien.
Voilà, Hervé Terry, directeur de recherche émérite au CNRS, il répondait à Nabila Hamel. L'appel à la prière a été diffusé ce matin dans toute la Nouvelle-Zélande, suivi de 2 minutes de silence pour rendre hommage aux 50 musulmans tués il y a une semaine, jour pour jour, par un extrémiste australien. Des milliers de personnes, dont la première ministre, se sont recueillies en silence dans un parc en face de l'une des 2 mosquées de Christchurch, visées par le tueur. L'invité Europe de la rédaction aujourd'hui, Jean Arthuis, eurodéputé ADLE, président de la commission budget au Parlement, en direct et en duplex de Bruxelles. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle. Une première question, Jean Arthuis, les négociations sur le budget pluriannuel de l'UE, c'est un peu la mère de toutes les batailles. Elles se déroulent tous les 7 ans et elles visent à définir donc les enveloppes budgétaires. La Commission européenne visait jusqu'à présent plutôt à la baisse quand le Parlement lui espère davantage une hausse. Où en est-on ?
On est en discussion et manifestement il n'y aura pas d'accord avant les élections européennes. Il faut d'abord que le Conseil arrête sa position à l'unanimité, ce qui est loin d'être fait. Nous avons au Parlement pris une position, votée au mois de novembre 2018, demandant que le budget européen soit porté à 1,3 du produit intérieur brut européen. Je dis bien 1,3, ce qui est quand même peu pour une Union européenne dont le destin est, je l'espère, de devenir un jour une puissance mondiale.
Alors, la France, rappelons-le, Jean Arthuis, est contributeur net au budget européen. Cela signifie qu'elle donne plus qu'elle ne reçoit. Et c'est un argument régulièrement repris par les partis eurosceptiques. S'ajoute une polémique sur les aides européennes qui devraient être remboursées par la France, quelques 650 millions d'euros, faute de les avoir distribuées à temps. À qui la faute et la complexité administrative n'est-elle pas le principal obstacle, finalement?
Si, il y a certainement un problème de procédure administrative. L'Europe fonctionne sur un règlement financier qui est largement inspiré par une sorte de méfiance. Il y a nécessité de simplifier ces procédures. La France a sa part de responsabilité dans les difficultés qu'elle rencontre pour obtenir les fonds qui lui sont dus au titre de ce qu'on appelle la politique de cohésion ou de la politique agricole commune. Il faut bien voir que le budget européen est un budget de redistribution. 75% de ce budget repart vers les États membres sous forme de politique agricole commune ou de fonds de cohésion, c'est-à-dire les fonds de développement régional, ou bien le fonds social européen. Et la France a mis au point un système informatique, un logiciel Osiris, qui est aux mains de l'agence du service de paiement, et semble-t-il, les dysfonctionnements de ce système. Ajoutez à cela que les régions ont maintenant une délégation et que les régions aussi ont mis leur grain de sel dans la définition des procédures. La complexité administrative fait que on a en effet des retards dans la liquidation de ce qui est dû à un certain nombre d'opérateurs sur le terrain, des collectivités territoriales ou des acteurs économiques.
Alors est-ce que c'est spécifique à la France ou est-ce que c'est récurrent dans les autres pays également ?
Il y a toujours un décalage, mais dans le cas particulier, la France est dans une situation que je trouve préjudiciable de sa propre responsabilité. On a sans doute voulu trop bien faire en mettant en place ce logiciel qui a des ratés et de vrais dysfonctionnements.
Donc difficile de dire qu'on donne trop quand finalement on ne réclame pas ce qui devrait
arriver. Oui, mais alors quand on dit qu'on donne trop, c'est le degré zéro de la solidarité. On donne trop, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le budget de l'Union européenne est financé par les droits de douane qui représentent 10% du budget et le reste vient des États membres. Et je vous l'ai dit, 75% du budget repart vers les États membres sous forme de politique agricole commune ou de politique de cohésion. Et donc, vous avez forcément un certain nombre d'observateurs qui vont dire bah, combien je reçois, combien je donne.
Ce qui n'est pas un beau calcul.
L'Europe devrait être une vraie solidarité. Et dans la vérité, il faut que ce budget progresse. Mais il n'est pas question qu'il progresse en augmentant la dépense publique en Europe. Il serait peut-être temps, compte tenu des enjeux et des défis que nous lance la mondialisation, des menaces et des dangers, que sur un certain nombre d'actions qui manifestement échappent à la souveraineté nationale, on se mette d'accord pour identifier ces biens communs européens et qu'on commence à transférer un peu de compétences du plan national vers le plan européen pour les climats, pour les migrations, pour l'économie numérique. De quel poids pesons-nous par rapport aux géants du numérique, aux GAFA ou aux géants chinois ? Sur un certain nombre de questions, peut-être qu'il y a des dépenses qui, engagées au plan national, n'ont pas la pleine efficacité, et elles auraient une vraie valeur ajoutée si elles étaient portées au plan européen. Donc, augmentons le budget de l'Union européenne sans pour autant augmenter la dépense publique en Europe. C'est-à-dire que si on augmente le budget européen, il faut baisser les budgets nationaux.
Mmh. Et alors, parmi les ambitions du Parlement européen en termes de budget, il y a le programme Erasmus. La Commission prévoit de doubler l'enveloppe quand le Parlement européen souhaite plutôt la tripler pour que soit englobé l'emploi des jeunes et notamment l'apprentissage.
Oui, je sors d'une conférence qui vient de se tenir sur précisément un projet pilote que j'ai lancé dans le budget 2016 de l'Union européenne pour permettre aux apprentis de partir eux aussi pendant au moins 6 mois dans un autre pays, dans le cadre de leur formation professionnelle. Aujourd'hui, Erasmus a démontré tous ses bienfaits, mais les vrais bénéficiaires sont les étudiants. Or, il s'agit de démocratiser Erasmus. On sait que l'apprentissage est la voie royale pour l'accès à l'emploi, au monde du travail. Donc, nous essayons de coupler apprentissage et Erasmus.
Alors rappelons tout de même que ce budget 2021-2027, les négociations ont débuté donc l'année dernière, mais il ne sera pas entériné avant l'automne prochain. C'est donc sous une autre mandature avec d'autres élus. Il y a quand même un risque de discontinuité là du pouvoir.
Et sans doute d'une autre commission, parce que la nouvelle assemblée, celle qui va être élue à la fin du mois de mai prochain, prendra ses fonctions au 2 juillet. Et la commission qui est en charge, en quelque sorte, de l'exécutif, la commission, elle, la nouvelle commission, s'installera le 1er novembre. Donc, je doute que l'on puisse conclure le prochain cadre financier pluriannuel avant le 31 octobre, et qu'il faudra sans doute attendre la fin de l'année 2019 et probablement le début de l'année 2020 pour conclure. Et encore une fois, ça ne va pas être simple parce qu'il faut l'unanimité des États membres pour cadrer le cadre financier pluriannuel qui engage l'Europe sur une période de 7 ans, 2021-2027, avec une grosse interrogation. Est-ce que le Royaume-Uni sera encore dans l'Union européenne? Et s'il n'y est plus, il manquera 12 milliards au budget de l'Union européenne.
Et pour notre part, nous conclurons ici. Merci Jean Arthuis, président de la commission budget au Parlement européen, d'avoir été en direct en duplex de Bruxelles avec nous aujourd'hui. Merci également à Annabelle Grelier. On termine avec un mot de météo. Quelques nuages sur les côtes de la Manche, partout ailleurs du soleil, les températures en hausse, entre 13 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.